Bonjour, je suis donc le docteur Pesquet. Je suis médecin généraliste et médecin du sport. Je suis une formation de psychanalyse au sein de l'Institut français de psychanalyse appliquée d'Avignon et je suis partenaire de Psychanalyse Magazine. Je vais tâcher aujourd'hui de vous dire quelques mots sur ce qu'on entend par le sens de la maladie d'amour. On va peut-être l'écrire même au tableau. Donc, je vais essayer de vous illustrer cette problématique, je dirais, à travers une expérience de cabinet, puisque c'est quelque chose qu'on est amené, nous, à traiter en cabinet souvent. Et je laisserai surtout beaucoup de place à vos questions pour pouvoir un petit peu parler de cas particuliers ou de problèmes qui vous préoccupent. Moi, ça me renvoie le sens de la maladie d'amour aux expressions populaires. Il se languit d'amour pour elle, elle se meurt d'amour pour lui. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Et au cabinet, je reçois les gens seuls pour cette problématique ou accompagnés par une personne de leur famille ou par un membre de la famille, par une amie. Et la plainte qui va être exprimée par la personne, elle peut être soit très directe, c'est-à-dire que la personne va arriver avec un état dépressif, une humeur triste, une angoisse. Ça peut passer par des manifestations du corps, c'est-à-dire vous avez la tachycardie, le cœur qui bat vite et fort, vous avez les brûlures d'estomac, vous avez les nausées, envie de vomir. Alors que c'est vrai, si on part sur une plainte donc psychologique, très vite, on va pouvoir discuter du problème qui est en amont et qui est très souvent un problème affectif. Mais la personne peut aussi arriver sans absolument pas parler de ce problème-là et exprimer simplement une douleur physique. Donc elle vient vous consulter et elle vous dit « j'ai la sinusite » ou alors « j'ai la migraine » ou « j'ai la colite »,« j'ai mal au dos »,« j'ai mal au genou », enfin il y a plusieurs cas, donc c'est l'examen médical type. Mais en fait, derrière cette douleur se cache un problème autre. Alors, dans un premier temps, il est évident que je vais prendre en charge la personne d'un point de vue médical. Je vais la soigner, je vais l'examiner, je vais lui donner un traitement. À partir du moment où cette personne va être amenée à revenir en consultation ou à revenir parce que la douleur persiste, parce que la douleur est récurrente, donc ça peut être par exemple quelqu'un qui a la migraine deux fois par semaine, toutes les semaines. Bon, là, c'est sûr que c'est quelqu'un que vous allez voir souvent. Ça peut être un échec au traitement, vous donnez un traitement anti-inflammatoire pour un problème de dos, ça ne passe pas, la personne reste bloquée. À partir du moment où il y a donc une demande de prise en charge répétée, parce que le traitement ne marche pas, parce qu'il y a récidive de la douleur, je vais essayer, au travers de la conversation avec l'individu, avec la personne, et par rapport à ce qu'il va me dire petit à petit et m'amener sur une voie, à aller voir le problème en amont, qui est très souvent de l'ordre affectif. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle la somatisation, c'est-à-dire c'est l'expression sous une forme corporelle d'un conflit psychologique. Donc c'est le transfert d'une souffrance psychologique sous forme du corps, sous forme d'une douleur, en un point du corps, douleur qui peut être légère, parce que bon, sinusite, colite, c'est invalidant, mais c'est léger, mais qui peut être une maladie beaucoup plus importante. C'est un terme qu'on utilise déjà en médecine, on parle de maladie psychosomatique, on en parle beaucoup dans les colites, on en parle dans des maladies plus importantes, comme les maladies rhumatismales, tout ce qui est polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, où on a depuis longtemps compris l'importance de l'équilibre psychologique pour, gérer la maladie au mieux. Donc, à partir de ce moment-là, on va être sur cette problématique de souffrance et en amont se cache la difficulté affective. L'individu, je dirais, est plus désarmé pour gérer les conflits affectifs que les conflits professionnels, en sachant que l'un ne va pas sans l'autre, mais c'est la plus grande difficulté que l'on ait, en fait, à surmonter dans la vie, c'est cette souffrance qui va être en rapport soit avec des échecs répétitifs, avec des partenaires, un partenaire ou une partenaire, bien évidemment. Donc ça, c'est la problématique la plus importante. Mais on peut parler aussi de maladie d'amour en général, lorsqu'il s'agit d'une souffrance par rapport à un deuil sur quelqu'un de la famille ou sur quelqu'un pour laquelle on avait investi énormément, qui disparaît et qu'on n'arrive pas à gérer au niveau de la carence affective. Ça peut être aussi sur des conflits, donc qui amènent des séparations, donc là, par rapport à une structure familiale. Et ça peut être aussi tout simplement, moi j'ai souvent ça, les exemples de jeunes couples, parce que sur Istres, on a la base militaire. Donc on a des jeunes couples qui sont mutés beaucoup et qui en fait avaient l'habitude d'être dans un endroit protégé avec toutes les familles sur place et qui se retrouvent mutés, seuls, sans amis, avec rupture avec la famille, parce que souvent il y a plusieurs milliers de kilomètres. Et là, ça entraîne des difficultés sur le plan affectif parce que ça déséquilibre complètement le couple. Et je suis amenée parfois à les prendre en charge pour cette problématique-là au travers d'une présentation donc corporelle. Alors, je vais essayer de vous donner des exemples. Moi, j'ai un patient, par exemple, qui est actuellement en divorce. Donc, il est venu me voir un matin, c'est un jeune, hein, et une trentaine d'années, et il était complètement bloqué du dos. Alors, il est rentré, il était raide, complètement raide, il ne pouvait plus bouger. Bon, bien sûr, je l'ai examiné, je lui ai donné un traitement, on en a discuté, et très vite, il m'a dit, j'étais chez l'avocat hier pour la non-conciliation. Donc, en fait, lui, il n'avait pas fait le rapport de cause à effet, mais quelque part, il en avait plein le dos. C'est-à-dire que la souffrance qu'il avait eue sur cette réunion, lui qui a jamais mal au dos, qui n'est jamais bloqué du dos, qui est un sportif, il l'avait transformé en souffrance corporelle. En plus, ce jour-là, il était très, très négatif. Donc, il était sur l'échec, avec une image de lui très, très dévalorisée, très négative, très dénarcissisée. Donc, j'ai pris le temps en consultation de le repositiver, de le regonfler, de lui redonner une image de lui, l'estime de lui-même. Et alors c'est amusant, quelque part, parce que quand il est ressorti, eh ben, il était déjà moins raide. Or, il n'avait pas commencé le traitement, hein. On avait juste discuté. Et lui, en fait, c'était curieux parce qu'il a quand même réfléchi là-dessus. C'est quelqu'un qui ne s'occupe pas de tout, ce qui est psycho, encore moins analytique. Et il est revenu quelque temps, donc ça allait mieux, disons, ça suivait son cours. Et il est revenu la dernière fois rebloqué du dos, le même, toujours. Mais là, par contre, il a directement entamé par le problème psychologique. Il avait quand même fait le lien. Et il m'a tout de suite parlé de ses problèmes affectifs et des tentatives de remise en route du couple avec échec à nouveau. Donc, on était reparti sur la problématique de l'échec. Donc, ça, ce sont des exemples frappants. J'en ai d'autres, c'est une femme qui est en échec répétitif, alors sur le plan affectif depuis des années avec ses partenaires. Donc moi j'ai été amenée à la prendre en charge pour un problème d'alcoolisme. Donc à ce moment-là, elle était en couple, au chômage, et donc sur une problématique d'alcoolisme. Donc on a commencé à mettre en place donc le sevrage. Ça marchait moyennement bien, elle a mis en place une rupture, et petit à petit elle est sortie d'alcoolisme. Ce qui laissait quand même envisager l'hypothèse que la relation qu'elle avait avant lui était pas favorable. Petit à petit, elle a recommencé à trouver du travail, un premier travail, et après un autre travail où il y avait une possibilité de CDI, de contrat à durée indéterminée. Donc à ce moment-là, tout se mettait en place pour redémarrer une vie sociale. Elle avait bien calmé son alcoolisme, mais la carence affective qui était là et qui était derrière et qui était quand même pas réglée, c'est pas quelqu'un qui fait un travail sur elle à ce niveau-là, a fait qu'elle a repris la liaison avec la personne d'avant, et c'est bon. Elle s'est bloquée le genou, c'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée sans être tombée, hein, à se casser un ménisque au niveau du genou, sur peut-être une fissure ancienne. N'empêche qu'elle a lâché à ce moment-là cette fissure. Il a fallu l'opérer. Au bout de 8 jours pour s'en remettre, elle y a mis 1 mois. Alors, entre-temps, elle a perdu son travail et elle est replongée dans l'alcool. Voilà, comme ça, c'était complet. J'avais tout sur tous les plans. Donc, comme je la suis, moi, régulièrement, j'ai quand même réussi à travailler un peu avec elle sur l'affectif. Elle a remis en place une rupture. Donc, le genou commence à guérir. Donc, c'est là qu'on voit un petit peu l'incidence de l'affectif sur la vie et de la somatisation, parce que le genou, c'est aussi le je et le nous. Donc, la localisation, en fait, au niveau du genou, elle donne une indication déjà au niveau de la réflexion, c'est-à-dire qu'une somatisation, elle n'a pas lieu n'importe où par hasard. Alors, bien sûr, il ne faut pas tomber dans des hypothèses caricaturales, hein, il ne faut pas dire tout problème de genou égale un problème entre genou et nous. Mais quand même, symboliquement, c'était une problématique sur le couple. Donc là, elle va mieux. Le genou, maintenant, marche, ça y est, elle est débloquée. Bon, par contre, elle a quand même perdu son travail. Donc, en fait, elle a eu une mise en échec, je dirais, sur le plan affectif et professionnel, donc avec un retentissement qui est quand même pas anodin. Et ça peut se voir sur des... Le genou, c'est le plus fréquent, hein. Le genou et le dos. Ça, c'est, ça marche bien. J'ai une petite jeune, elle n'arrivait pas à avoir une relation avec son amie, une jeune de 20 ans, hein. Et elle avait eu un accident du genou quelques années auparavant, donc il lui restait un genou opéré, donc un genou quand même sensible et douloureux. Et je l'ai suivi pendant un hiver entier, toutes les semaines. Parce que je pique en mésothérapie quand les gens ont des douleurs qui résistent, pour pas prendre des anti-inflammatoires à l'infini, qui marchent pas d'une façon fabuleuse. On l'a suivi pendant 6 mois à 8 mois, régulièrement, pour cette problématique du genou. Entre-temps, elle a quand même accepté de mettre en place, là, un suivi avec un psychiatre pour travailler sur ce problème affectif. Et elle l'a réglé. Mais du jour où elle l'a réglé, c'est-à-dire qu'elle est revenue me dire que tout allait bien, comme par hasard, le genou était guéri. Je veux dire, je n'avais rien fait de plus, il ne faut pas se leurrer. Je l'avais soulagée au niveau douleur, je l'avais accompagnée. Je l'ai amenée à se poser des questions et à travailler sur elle. Elle a choisi, elle, d'aller voir le psychiatre. C'est venu d'elle, de sa demande. Donc ça, c'est très bien parce que c'est là où ça marche le mieux. Et une fois qu'elle a eu réglé son problème affectif, eh bien, c'était fini. Le genou, il était guéri. Je ne la vois plus du jour au lendemain. Or, le genou, elle a toujours ses plaques dedans. Et quand il y a de l'humidité, normalement, elle a mal. C'est automatique. Tout ce qui est coup de mistral, pluie, ça réveille des douleurs osseuses. Donc, comme quoi, l'importance aussi du psychologique sur le corps, elle est fondamentale et elle est déterminante, je dirais. Est-ce que c'est clair à ce niveau-là, au niveau de la somatisation? Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à des expériences de ce même type? Sur des blocages ou sur des personnes qui se sont déclenchées des problématiques.
Je voulais demander le mal de dents. Est-ce que c'est en mal à l'intérieur?
Le mal de dents, c'est, ouais, l'image qui, j'en ai pas parlé, de la maladie d'amour. On dit toujours celui qui a mal aux dents, c'est celui qui est malheureux en amour. Parce qu'en fait, la symbolique de la dent, D-E-N-T, renvoie à la castration. Ça, parce qu'en fait, en analyse, tout mot a une ambivalence et un double sens. Et c'est vrai que là-dedans, ça renvoie à l'angoisse de castration et ça renvoie à des problèmes de l'ordre affectif au niveau du relationnel entre un homme et une femme. Et chacun vient trouver sa place pour qu'au niveau du couple, il y ait une bonne complémentarité, une bonne énergie. Et ça, c'est très amusant parce que souvent vous arrivez à faire, bon, sauf si c'est une fois de temps en temps, attention, hein, mais quand c'est effectivement répétitif, il y a une problématique à ce niveau-là, et ça, c'est également une expression connue.
Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer s'il y a possibilité de somatisation pour les maladies plus graves comme le cancer?
Et oui, malheureusement, bien évidemment, c'est-à-dire que donc la somatisation, c'est le transfert d'un conflit psychologique, donc négatif, sur le corps. Selon l'importance des forces négatives que vous allez basculer sur votre corps, vous allez pouvoir déclencher la mise en place d'un cancer. En sachant qu'il n'y a pas que vous, il y a aussi, dans la notion de cancer et dans la notion de toute maladie, il y a aussi l'héritage transgénérationnel. Parce que souvent dans les familles, même chez les médecins, on vous demande s'il y a eu des cancers dans la famille. On vous demande l'oncle, la tante, parce qu'on sait qu'il y a une répétition. Donc, il y a vous, je dirais, à un moment donné, qui êtes acteur de votre vie et de ce que vous allez déclencher sur votre corps. Et vous avez aussi votre héritage transgénérationnel qui fait qu'il y a des répétitions de maladies. Ça se voit bien évidemment dans les cancers du sang aussi, dans les leucémies, dans les cancers du sein, puisqu'on demande souvent les antécédents et on sait qu'il y a un terrain propice. Donc après, si vous allez être négatif à un moment donné, vous allez pouvoir renforcer ce terrain et mettre en place quelque chose. Mais à ce sujet, moi j'ai une patiente qui s'est malheureusement déclenché un cancer de l'ovaire. Son père est décédé il y a 3 ans. elle l'a accompagné. Donc, ça a été 2 années très difficiles à accompagner la maladie du père. Donc, le deuil est pas fait. 1 an après le décès du père, la femme, donc sa mère, a déclenché un cancer de l'ovaire. 1 an après, la fille vient de déclencher le cancer de l'ovaire, le même. Donc, je veux dire, ça c'est rare, hein, mais ça c'est spectaculaire. Ça veut dire que les deux femmes sont sur la problématique du deuil et de la disparition du père. Bon, pour l'une c'est le mari, pour l'autre c'est le père, et qu'en fait le deuil est passé. Et ils ont déclenché donc le cancer sur cette zone qui est tout ce qui est zone de l'ovaire, tout ce qui est zone de la vessie, donc urogénitale, qui renvoie au côté féminin, à la sexualité, au couple, etc. Et donc, bon, là, on est en train d'essayer d'étudier ce qui se passe, puisqu'elle a été prise en charge par la même équipe, la mère et la fille, pour la même pathologie. On essaye de voir si c'est une bonne chose ou si ce serait peut-être bien de différencier les deux équipes, simplement pour différencier l'histoire. Mais bon, ça, c'est un travail qui se mettra peut-être en place si la personne est d'accord. Moi, j'ai commencé à travailler un peu avec eux là-dessus et il faut y aller tout doux, là. Tout doux. Bon, déjà, elle va bien. Donc, ça, c'est important. C'est déjà travailler sur le fait qu'elle gère bien la problématique. Elle a bien compris qu'il fallait faire deuil du père et elle réfléchit dessus pour sortir de cette histoire. Mais sur... Donc, ça se voit effectivement sur ces maladies-là. Et donc, je ne sais pas si autour de vous, vous en avez, mais des gens qui ont des grandes maladies rhumatismales. La sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde. Vous pouvez avoir des poussées lorsque vous êtes stressé, lorsque vous êtes angoissé. Ça se voit beaucoup. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, oui, la dame devant.
Oui, j'aimerais savoir la relation qu'il y a. Lorsqu'un homme commence à avoir une prostatite, donc pour un développement de prostate, quelle est la relation avec l'émotion, s'il vous plaît?
Là, c'est à voir, je dirais, au cas par cas, hein, puisque c'est vrai que, je vous dis, il ne faut pas généraliser sur une localisation et une interprétation analytique.
C'est quand même une somatisation.
C'est une somatisation tout à fait qui renvoie à une problématique pareille au niveau affectif et au niveau du couple. Puisqu'en fait, la problématique, c'est que si on est... Bon, d'abord, c'est une gêne au départ, donc c'est une gêne dans sa vie, c'est une gêne dans son intimité, c'est une souffrance aussi. Et puis, on sait très bien que quand il y a opération, il y a des risques d'impuissance après, qui sont minimes, mais qui peuvent arriver. Et c'est la grosse problématique à l'heure actuelle de l'opération d'adénome de la prostate, puisqu'on essaye chirurgicalement d'enlever une toute petite partie et d'être le moins interventionniste possible pour pas castrer l'homme.
Mais alors que chez la femme, lorsqu'elle a donc une ablation des ovaires...
Mettez-le bien fort contre vous.
Oui, je disais, alors que la femme, lorsqu'elle a une ablation des ovaires, d'un ou des deux ovaires, donc, en fait, elle n'a pas de problème ni au niveau sexuel et ni au niveau...
Donc la personne posait la question de la répercussion pour une femme d'une intervention sur les ovaires. C'est vrai que quand même, regardez, si vous êtes opéré au niveau des ovaires pour une femme, vous êtes obligé de mettre un traitement artificiel hormonal substitutif, parce que sinon il y a une répercussion sur la qualité de vie de la femme, sur sa libido, sur tout ce qui est problème de sécheresse vaginale, donc problématique au niveau du couple. Donc c'est jamais anodin quand même. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, je veux dire, donc c'est pareil, au début, ils faisaient des opérations. La médecine, elle évolue, pas forcément parce qu'ils se sont posés des problèmes analytiques, mais quelque part par le bon sens. C'est-à-dire qu'au départ, on faisait très facilement, on enlevait les ovaires et l'utérus, quand il y avait un problème. Après, on a commencé à essayer de garder les ovaires, après, essayer de garder le col de l'utérus. Petit à petit, on limite le côté chirurgical et le côté, je dirais, quand même, mutilation, parce que c'est quand même vécu comme une mutilation. Donc ça c'est pareil, tout le monde n'a pas des problématiques à ce niveau-là.
Bien que sur le plan énergétique, disons que ce soit les ovaires ou la prostate, existe encore, si vous voulez.
Au niveau inconscient, vous voulez dire?
Pardon?
Au niveau, à quel niveau énergétique? Une fois enlevé, vous voulez dire?
Une fois enlevé.
dans l'inconscient de la personne et dans, oui. la, dans, oui. dans l'imago. Oui, mais ça dépend peut-être si la personne fait un travail qui lui permet de le... un travail sur elle et une approche qui lui permet de le vivre comme tel. Parce qu'en cabinet, quand les femmes viennent me voir, il y en a beaucoup, elles le vivent vraiment comme une mutilation au premier degré. Et il n'y a pas de symbolisation de l'affaire. Hein. Ça, c'est peut-être aussi quand on fait déjà un travail de réflexion dans ce domaine-là.
Oui, bien sûr, c'est fondamental. Hein.
Oui, ouais. mais bon, tout le monde n'est pas réceptif. Mais ça, c'est l'intérêt du travail de cabinet, c'est de proposer une diversité de réflexion. Et à chacun de choisir son schéma d'intervention. D'autres questions? Oui, madame.
Je me suis blessée l'épaule. Alors, ça fait à peu près 5 semaines. Et je me pose la question, je suis allée voir le médecin, enfin, pommade, truc, et ça vient, ça part. C'est-à-dire, physiquement, ça s'en va, mais ça revient, je ne sais pas, je ne m'explique pas. Voilà.
Tout ce qui est, c'est pour ça que je disais, le genou, par exemple, donc la dame pose la question d'une problématique au niveau de l'épaule, il faut partir sur l'articulation. Il ne faut pas rester sur l'épaule proprement dit, ça veut dire qu'il y a un blocage au niveau de l'articulation. Donc il y a un blocage quelque part dans votre vie, un rouage qui bloque, et qui fait que vous avez une somatisation corporelle. Alors, c'est bon, l'épaule en elle-même n'est pas forcément symbolique de quelque chose. Peut-être si on étudiait, je dirais, au cas par cas, hein, dans les détails. Mais c'est cette notion de blocage.
Est-ce que le côté gauche ou le côté droit a une influence ou pas vraiment?
Je dirais, enfin, d'un point de vue analytique, on ne travaille pas spécialement sur le côté gauche et le côté droit. C'est plus dans les dynamiques, je dirais, énergétiques. Enfin, moi, je sais qu'en sophrologie, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Voilà. Mais bon, ça, c'est encore une autre mode de réflexion. Mais c'est vrai qu'en sophrologie, moi, on me l'avait expliqué, hein, parce que en étant médecin du sport, on travaille aussi avec plusieurs corps intervenants et ça va sur l'ostéopathe, donc le corporel. Eux aussi ont une approche souvent énergétique des articulations bloquées, d'ailleurs, puisqu'il y a des ostéopathes qui sont énergéticiens. Et puis au niveau thérapeutique pur, sur des contractures persistantes, des tensions internes, moi je peux envoyer chez des sophrologues.
Ça a une relation sur la polarité yin-yang, la polarité féminine.
Oui, avec le côté droit oui. masculin et oui, le côté oui, gauche oui. féminin. Voilà, c'est vrai, tout à fait. D'autres questions? Donc, je vous parlais d'échec affectif. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, tout petit, on est déjà sur cette problématique-là. Donc, tout ce qui est au niveau de l'Œdipe. Donc, l'Œdipe, il y a maman, papa et moi. Mais quelque part, moi, je suis déjà exclue par rapport au couple parental. Donc, en fait, tout jeune, on est déjà sur cette souffrance affective, cette exclusion affective, parce que le petit garçon qui est amoureux de maman, eh ben, il a papa comme rival. Et puis, ben, ma maman, elle couche avec papa, elle ne couche pas avec lui. La petite fille, elle est amoureuse de papa, seulement il y a maman au milieu. Bon, et finalement, papa, il choisit maman. Il n'a pas choisi elle comme femme. Donc ça, c'est toute l'évolution œdipienne qu'on va faire, mais on est déjà à ce moment-là sur quelque part une trahison et une exclusion. Et puis après, on va faire son chemin, on va évoluer, on va se détourner du père pour la petite fille pour un homme et de la mère pour le petit garçon pour une femme. Donc on va après petit à petit couper le cordon ombilical et créer sa vie de couple. Mais en fonction de l'histoire de chacun, du vécu parental, du vécu fantasmatique des parents, ben, y a des personnes qui vont avoir du mal à franchir cette étape et à trouver leur équilibre au niveau affectif et qui vont rester donc très fragiles sur ce sentiment d'exclusion qui va les suivre et qui va expliquer les échecs répétitifs. Et là, Là, j'ai une patiente dans l'ordre de la somatisation. J'ai une patiente moi, qui est venue me voir parce qu'elle avait des vertiges et des cervicalgies, le rachis cervical bloqué. Et c'était devenu très invalidant. Donc, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas marcher, elle tournait sans arrêt, en plus des douleurs. Et en fait, bon, moi, je l'ai vue plusieurs fois, donc j'ai donné des traitements, et elle voulait reprendre une activité professionnelle, mais comme elle avait les vertiges, ça la bloquait. Et elle m'a expliqué qu'en fait, elle était... Elle cohabitait avec son mari, mais il y avait une problématique dans le couple importante depuis un an ou deux, parce qu'en fait, elle était sur la trahison du mari, la trahison avec une autre femme. Donc voilà ce qu'on appelle les problématiques de trahison qu'elle n'avait pas, je dirais, dépassées. En même temps, elle n'avait pas réussi à le quitter, donc il cohabitait mal, avec beaucoup de conflits, puisqu'elle passait son temps à se venger quelque part de ce qu'il avait fait. Donc avec des disputes au sein de la famille, seulement la seule chose qu'elle en récoltait, c'était une somatisation sur elle, avec aussi des crises de spasmophilie. Donc spasmophilie, on manque d'air, on étouffe, le cœur s'accélère, on a mal au cœur, ce qui renvoie à la maladie d'amour, et une invalidité finalement pour elle. Donc moi, tout en prenant en charge le côté médical, je l'ai amené petit à petit à lâcher prise sur cette notion de vengeance et de trahison, d'essayer un petit peu de dépasser la problématique. Elle a réussi à rééquilibrer petit à petit l'atmosphère dans la maison. Le problème n'est pas réglé, mais disons qu'ils ont réussi à faire une cohabitation, je dirais, plus intelligente, quelque part, et elle est sortie de la somatisation. Elle a repris une activité professionnelle, et petit à petit, elle prend son autonomie, et elle continue, bien évidemment, de réfléchir à ce qu'elle veut faire au sein du couple. Mais je veux dire, elle guérit. Et son petit, qui était au milieu et qui vivait très mal les problématiques parentales et qui peut-être se vivait quelque part responsable de ce qui se passait, lui faisait des crises d'épilepsie. Et à partir du moment où, en fait, l'atmosphère s'est calmée, le petit ne fait plus de crise. Donc, c'est voir l'incidence d'un problème qu'on laisse flamber sur le plan affectif et la répercussion physique pour une personne qui ne s'est jamais posé ce genre de questions. Donc, ma chose qui est intéressante, c'est qu'on peut arriver à en discuter, on peut arriver à amener la personne à réfléchir sur elle-même et à trouver une autre façon de se prendre en charge et de se regarder aussi, quelque part, dans le miroir. Ça, c'est toujours intéressant. Donc ça, ce sont des exemples de cabinets, de personnes qu'on va voir au quotidien régulièrement. Est-ce que vous avez des questions là-bas?
Donc là, vous avez abordé le problème de la spasmophilie. Je voulais vous demander si vous pensiez que c'était exclusivement une maladie psychosomatique. Ne pouvait-elle pas être aussi une maladie d'ordre physiologique, c'est-à-dire l'incapacité pour le corps physique d'assimiler donc le magnésium ou le calcium suivant donc les personnes?
Oui, donc je suis tout à fait d'accord. En plus, la spasmophilie, il y a des médecins qui y croient pas du tout, qui refusent de la prendre en charge. Moi, je la prends en charge, c'est-à-dire que je donne beaucoup de magnésium. Parce que je pense effectivement que c'est, d'un point de vue, je dirais, physiologique, l'incapacité à fixer du magnésium ou brûler son magnésium plus vite. Simplement, c'est pas par hasard qu'on déclenche cette maladie-là plutôt qu'une autre. C'est ça, en fait, le raisonnement. C'est pourquoi vous allez faire la spasmophilie et pas la voisine. Donc, c'est simplement qu'à un moment donné, chacun va choisir son type de somatisation. Alors, il y en a qui vont faire des crises d'angoisse. Alors, les crises d'angoisse, remarquez, c'est peut-être pas tellement mieux, parce que les gens arrivent, ils ont très très peur, ils n'arrivent pas à décrire ce qui les serre intérieurement, mais ils ont cette imminence de mort, c'est difficile. La spasmophilie, c'est un petit peu plus, il y a l'angoisse de mort aussi, mais qui est peut-être un petit peu moins forte, avec le cœur qui s'accélère, avec les contractions musculaires, les fourmis, le manque d'air. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on choisit tous notre localisation.
En fait, ne pourrait-elle pas être aussi d'ordre héréditaire. Enfin, moi, c'est ce que j'ai entendu, parce que je suis spasmophile depuis une trentaine d'années. Au départ, on m'a dit, donc, c'est une maladie de femme jeune, j'ai bientôt avoir 50 ans, c'est toujours spasmophile. Et ce qui est aussi fait sourire, c'est qu'en fait, j'ai des crises de spasmophilie dans des périodes de ma vie où je suis bien, où je n'ai pas de problème, où je ne me bats pas. Donc, bon, c'est peut-être un peu retour de le dire aujourd'hui, mais je suis une femme heureuse et j'ai mes crises de spasmophilie. Donc, je ne pense pas que je vais m'interdire le bonheur. Ou le...
Nous, on analyse, on a l'habitude de dire qu'en général, quand on est le plus mal au conscient, c'est là où on va le mieux sur le plan inconscient. C'est qu'on est en train de régler un problème et de le dépasser et donc d'avancer. Donc, ce que je veux dire, c'est que des fois, c'est vrai qu'apparemment, on est bien, c'est vrai. Et on va somatiser. Donc, c'est que quelque part, il y a quand même quelque chose au plus profond de nous-mêmes et qui n'est pas apparu au conscient. Le problème, c'est qu'il faut quand même qu'on arrive à le situer, à le localiser. Il y a ce quelque chose qui est derrière, qui nous travaille, et on n'a pas encore trouvé lequel. Mais après, ça vient à un moment donné. Pour éviter d'enchaîner.
Et souvent aussi, ça arrive, par exemple, dans des périodes de décontraction. Je vais piquer un bon sourire avec des amis, et puis soudain, bon, la crise me tombe dessus. Je veux dire, c'est... J'ai l'impression que c'est quand j'ai fini de me battre pour quelque chose que je me donne le droit de flancher, peut-être.
Oui, comme on dit, quand les nerfs lâchent, quand on se relâche et qu'on laisse la somatisation arriver, quand on a eu des périodes un peu de difficiles.
Ou alors, je me suis aussi posé la question, est-ce que je me refuse le droit au bonheur ?
Le droit au bonheur, ça c'est difficile, hein, parce que moi je pense pas qu'on puisse avoir une vie, je dirais, heureuse au quotidien, tous les jours et... complètement à l'infini, je pense qu'il y a quand même toujours quelques problématiques de temps en temps. Donc, moi, je dirais que la spasmophilie, c'est pas grave. Peut-être qu'il vaut mieux faire un peu de spasmophilie de temps en temps, prendre du magnésium, que de se faire des sinusites comme je vois certaines femmes qui ont le pus dans la tête, comme je dis, mais alors au sens propre comme au sens figuré, et qui se retrouvent avec un état dépressif parce que ça donne des migraines qui sont invalidantes, comme les migraines aussi. Des femmes qui n'ont pas de problème, tout va bien, mais elles se font les migraines. Ça, c'est quelque chose de très, très fréquent. Et ils sont sans arrêt en train, sur le plan médical, de rechercher des médicaments de pointe pour sortir de là. Et ma foi, il y a toujours des gens qui résistent à tout. Hein. Vous avez beau leur donner les derniers médicaments à la mode, c'est pas génial. Donc c'est pour ça que je dis que dans ces cas-là, soit ça peut être aussi trop de stress dans sa vie, et ça peut aussi passer par une rééquilibration de sa vie, par de la détente, par du yoga, par du sport. Moi, je conseille beaucoup le sport à mes patients comme dynamique de vie, mais ça peut être de la sophrologie, ça peut être aller voir un ostéopathe de temps en temps, ça peut être à chacun de choisir son style, son profil. Et sur les cas graves, ça peut être effectivement faire une psychothérapie et éventuellement envisager une analyse. Mais tout le monde n'ira pas en analyse. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? C'est difficile. Non, mais je comprends que ce soit difficile d'imaginer qu'il y a quelque chose qui gêne quand tout va bien. C'est sûr. Simplement, si c'est une fois de temps en temps, c'est pas invalidant. La problématique, c'est si ça devenait invalidant pour vous.
Je l'ai connu, ça, il y a une dizaine d'années, où c'est devenu invalidant. Tout à l'heure, vous disiez, oh, il vaut mieux avoir une sinusite. Alors, je souriais parce que je pensais que il n'y a qu'un spasmophile pour comprendre un autre spasmophile, puisque ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, mais c'est très invalidant.
Parlez plus fort, je ne vous entends pas bien.
J'ai l'impression que je crie, pourtant. Vous disiez tout à l'heure qu'il valait mieux avoir une sinusite qu'une spasmophilie.
Encore ?
Mais je pense, moi, que un spasmophile ne peut être compris que par un autre spasmophile, parce que c'est une maladie qui est vraiment invalidante. En fait, une fois qu'elle s'est déclenchée, puisqu'on a un terrain de prédisposition à la base, une fois qu'elle est déclenchée, elle peut ressurgir. Bon, chaque fois que vous rencontrerez, disons, des événements traumatiques dans votre vie affective. Mais ça peut, c'est vrai que ça peut être invalidant. Ça peut vous empêcher de sortir dans la rue. Moi, ça m'est arrivé il y a une dizaine d'années, donc de ne plus vouloir aller chercher même mon enfant à l'école, de ne plus vouloir aller chercher une baguette de pain parce que ça me représentait un effort surhumain. Bon, j'ai dépassé ce stade, donc là, je veux lancer quand même un message d'encouragement s'il y a des spasmophiles dans la salle. c'est qu'on s'en sort. On s'en sort, mais je pense que c'est beaucoup de volonté. Moi, personnellement, je m'en suis sortie donc par des séances de psychothérapie au départ, deux par semaine, et par des séances d'acupuncture. Donc, actuellement, j'étais à un virage de ma vie, donc je vais prendre une grave décision de séparation. Bon, je l'ai fait, j'ai été libérée. Mais là, en ce moment, j'ai tout pour être heureuse, et ces crises reviennent. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Donc, je fais toujours de l'acupuncture. J'ai du magnésium en permanence, j'ai vu ma future avant de venir. Je vais aussi chez un kiné qui m'envoie des vibrations avec des ampoules, mais je veux dire que je passe mon temps à soigner ma spasmophilie et à la vaincre. La seule chose qui m'apporte beaucoup, donc je veux aussi le dire, bon, la sophrologie je ne connais pas, c'était de prendre des cours de danse, donc c'était d'avoir une activité physique en dehors de mon travail où je pouvais justement avoir un moment de décontraction physique, voilà. J'ai commencé à faire des randonnées.
Ça veut dire qu'à un moment donné, on sort du cas de la simple spasmophilie légère pour partir dans quelque chose de beaucoup plus lourd qui est de type de l'angoisse. L'angoisse du déplacement à l'extérieur, l'angoisse d'aller faire ses courses dans un magasin. Mais là, moi, je ne parle pas de spasmophilie simple. Pour moi, c'est quand même plus invalidant. Et vous avez mis en place des éléments qui vous ont permis de travailler dessus et qu'il faut éventuellement poursuivre. C'est ça, hein, la spasmophilie légère, moi ça se gère facilement, mais quand ça devient un stade comme ça, j'appelle plus exactement ça la spasmophilie, donc là il faut se donner effectivement des moyens autres, autres que le magnésium. Hein. Encore que moi j'ai des amis qui sont médecins, ils dorment jamais de magnésium, ils m'ont expliqué que c'était un placebo, que c'était dans la tête. Moi je veux bien, mais moi ça me fait beaucoup de bien par moment.
Ben moi, on m'a dit que je faisais partie des 5% de véritables spasmophiles,
voilà.
C'est le fait de ne pas assimiler. Mmh. Qui provoque donc toutes ces réactions d'angoisse. Je voulais savoir justement s'il était possible, là dernièrement on m'a conseillé de prendre donc du magnésium non pas en produit pharmaceutique, mais en produit biologique. Parce que le corps ne réagit pas de la même façon lorsque c'est un produit de synthèse que lorsque c'est un produit naturel. Enfin, moi je cherche justement à comprendre, parce que c'est une maladie quand même qui atteint beaucoup de personnes, comment faire donc pour résoudre ce mal-être, parce que finalement on vit mal.
C'est bien d'essayer de toute façon, parce qu'effectivement il y a des gens qui ont un corps beaucoup plus réceptif à du magnésium biologique que le magnésium, je dirais, artificiel de laboratoire. Et ça, j'ai plusieurs personnes qui me l'ont dit. Et d'ailleurs, quand elles viennent en cabinet et qu'elles me demandent un type de magnésium, je respecte. J'impose jamais. Parce que c'est eux qui sont à l'écoute de leur corps, c'est à eux de sentir.
Je précise qu'il reste 20 minutes.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions en rapport avec la problématique? Alors dernièrement, il y a eu la Saint-Valentin. Alors la Saint-Valentin, ça c'est spectaculaire, c'est la fête des amoureux. Alors ça renvoie bien à l'exclusion pour ceux qui sont en difficulté ce jour-là, parce qu'en plus on vous en parle largement avant, pendant et après. Donc si vous l'oubliez, c'est pas possible, vous avez même les affiches en ville. Donc c'est bon, vous prenez votre voiture plein pot à chaque fois, hein. Et ça c'est comme les fêtes de Noël, hein, avec l'exclusion pour ceux qui vont faire les fêtes de Noël tout seuls. C'est la même problématique. Alors au cabinet, c'est bon, on le sait, hein. Donc là, vous avez l'onde de choc avant, pendant et après. Et alors cette année, je me suis amusée donc parce que c'est la période des gastro. Alors j'ai regardé simplement qui avait fait la diarrhée ce jour-là, le jour d'avant, le jour d'après. Et il y en a une. J'en ai pas discuté avec elle, mais je veux dire, moi, ce que je sais, c'est qu'elle a passé sa nuit de Saint-Valentin dans les chiottes, quoi. Elle est venue le lendemain, c'était son première expression. Elle m'a dit, j'ai vomi, j'ai eu la diarrhée, toute la nuit, je suis restée dans les toilettes. Bon, moi, j'ai rien dit, hein, les mères de famille, elle a plusieurs enfants. Moi, j'ai soigné juste le côté médical, mais je me suis dit, bon, quelque part, ça a grippé sur la Saint-Valentin. Parce que les autres, ils l'ont fait 8 jours avant ou 8 jours après, mais pas ce jour-là. Et puis moi je pense aussi à quelqu'un qui elle a décompensé sur la Saint-Valentin, mais 2 jours avant. Donc elle est venue me voir, elle avait la gastro, surtout la colite, des douleurs de ventre, nauséeuses, pouvant pas manger. Et très rapidement elle en est venue à me dire, mais c'est normal, la Saint-Valentin arrive. Et la Saint-Valentin c'était le jour où j'avais découvert la trahison de mon ancien amant. Bon. Donc, elle était déjà positionnée sur la trahison. avec une problématique affective avec le nouvel homme dans sa vie en ce moment, ce qui fait qu'elle est partie sur la rencontre de la Saint-Valentin, mais sur la trahison de l'autre, donc à l'envers. Moi, c'est ce que j'appelle être à l'envers. Et ben, elle a eu les nausées et mal au ventre toute la soirée, donc ça s'est pas bien passé, parce qu'elle a même pas pu manger quelque chose. Comme quoi, l'incidence de l'affectif, ça peut aussi se déclarer sur le jour J. Et elle n'était pas malade le mois d'avant, et elle sera certainement pas malade le mois d'après. Même si la problématique affective, elle est là, elle est derrière. Mais cette symbolique de la Saint-Valentin, ça l'a renvoyée à l'exclusion, et elle est restée dessus, bloquée. De la même façon que ce jour-là, vous allez voir des patients. Moi, j'avais beaucoup de monde ce jour-là au cabinet. Mais ceux qui avaient, je dirais, pas de projet, ils sont restés même assez tard. Et les autres, ben, ils sont rentrés chez eux parce qu'ils avaient quelque chose à faire, visiblement. C'est-à-dire que, en tout cas, la raison pour laquelle ils étaient venus sur le plan médical en prenant des rendez-vous en fin d'après-midi pouvait attendre. Donc, ça veut dire qu'ils allaient relativement bien, moi, je dirais, d'un point de vue psychosomatique, voilà, d'un point de vue général. Et par contre, la Saint-Valentin, non, ça vous parle? J'ai des exemples des fois autour de vous. Ça, c'est quelque chose, nous, qu'on confie au cabinet souvent. J'ai une autre patiente, elle est divorcée, pareil, pour la trahison. Elle est divorcée, son mari a eu une liaison en double pendant 2 ans avant le divorce. Elle a tout appris à la fin. Et bon, c'est pas digéré. Et alors, il lui en arrive sans arrêt. C'est-à-dire que là, c'est le voisin qui lui a roulé avec la voiture sur le pied en reculant. Il faut le faire, quoi. Et elle a eu le pied écrasé. Alors, il n'y avait rien de cassé. C'était juste un peu, enfin, un peu, c'est quand même à la taille d'une voiture, quoi. Mais un peu écrasé, quoi. Mais bon, ça fait 8 mois qu'elle a mal au pied. Donc à chaque fois qu'elle pense à son pied, elle pense à son voisin, donc elle pense à l'homme qui fait mal. Et on s'en sort plus, hein. Elle voulait. Alors en plus, on est rentré dans un système de procédure d'expertise pour être indemnisé. Ah, c'est bon, là, on en a pour 2 ans. Donc moi, j'ai essayé un petit peu de discuter avec elle, mais elle voulait pas entendre. Et pour finir, elle a eu un accident de voiture et c'est un homme en voiture qui lui est rentré par derrière. Et là, donc après, elle a eu l'entorse du raccis cervical et maintenant, en plus, elle a mal au cervical. Donc, ce qui fait que, bon, là, c'est vrai que pour l'instant, on a du mal à s'en sortir et on essaye de prendre en charge la problématique et discuter avec elle de l'affectif, de sa solitude, parce qu'elle est effectivement, elle se sent, je dirais, dévalorisée et dénarcissisée. Donc, j'essaye de travailler avec elle là-dessus. Mais, bon, si elle n'a pas envie d'évoluer dans ce domaine-là, je resterai en attendant qu'il y ait l'ouverture. S'il lui faut 1 an, il lui faut 1 an. S'il lui faut 6 mois, tant mieux. On verra petit à petit. Elle a commencé quand même à envisager une cure analytique. Elle l'a envisagée. Je l'ai adressée donc à un ami qui est psychanalyste. Elle est allée au premier entretien, mais bon, elle n'était pas prête, donc elle n'a pas poursuivi. Mais ça veut dire qu'elle y viendra peut-être après. Et que ça lui permettra de travailler différemment sur elle et de comprendre beaucoup de choses, parce que je pense qu'elle a quand même une souffrance affective et qui remonte à l'enfance et qui est importante, une femme intelligente, et qui la gêne pour se réaliser. Donc tout ça, c'est à suivre sur les mois qui vont venir. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça va? La somatisation et ses répercussions affectives. Et surtout l'affectif en amont de la somatisation. C'est vrai qu'en cabinet, on ne peut pas toujours, accorder du temps non plus, hein, autant qu'on voudrait à l'entretien psychologique. Je veux dire, il y a du monde, il y a une question de réalité, hein. Donc, c'est un travail qu'on va mettre en place. Il y a des médecins, de toute façon, qui ne sont pas non plus intéressés par ce genre de raisonnement. Et c'est un travail qu'on va mettre en place sur certaines personnes qui sont réceptives. Je ne peux pas le faire à tous les patients. Hein. Donc sur certains où vraiment petit à petit, ça devient quelque part, je dirais, évident et nécessaire. Parce qu'ils n'ont pas pu résoudre le problème tout seul. Parce que si vous réglez le problème tout seul, vous sortez de la maladie, je ne vous revois plus, c'est fini. Il y a des gens d'ailleurs que je ne vois jamais. Ou je vois une fois par an. Donc s'ils viennent une fois par an, je ne veux pas leur poser le problème de savoir si ce jour-là ils sont discutés avec leur femme, leur belle-mère, ou etc. Je veux dire, ça c'est pas le problème. Hein. Alors peut-être que les dentistes sur les problèmes de dents, ils viendront. Sur les gens qui ont des dents qui demandent des soins, je dirais, répétés. Et... C'est vrai que les gens, des fois, ils viennent me le dire. Ils viennent me dire mes dents s'abîment. Vous pouvez pas faire quelque chose. Mes dents se déchaussent. Oh, je vais les perdre. Bon, là, je suis pas dentiste hein, quand même. Hein. Donc, j'essaye de voir un petit peu si je peux les aider autrement. Mais les gens se mettent en double. Ils vont venir et voir le dentiste et me voir pour me demander un complément d'efficacité. Et après, on va essayer de travailler et de voir comment on peut fonctionner. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Contre les lèvres.
Pour parler de complémentarité, est-ce que le fait de faire un travail sur soi peut être compatible, par exemple, avec un travail au niveau de l'ostéopathie, de kinésiologie, justement pour travailler plus sur les énergies, sur le symptôme? Est-ce que l'un peut avoir une incidence sur l'autre?
Vous pouvez me répéter le début de la question, je n'ai pas entendu que les filles des gamins.
Est-ce que le fait de mener un travail sur soi,
ouais,
peut être compatible avec mener un travail au niveau ostéopathique ou kinésiologique pour travailler plus sur le symptôme et sur les énergies?
Oui, bien sûr. Mais travailler un travail sur soi sous quelle forme?
Analytique.
Ah, sous forme analytique? Ah oui, bien sûr, c'est tout à fait complémentaire.
Mais le fait de travailler sur le symptôme ne peut-il pas avoir une incidence sur le travail sur soi?
Je pense, enfin moi je le vois pas comme ça au niveau ostéopathique. Bon, d'abord si c'est un ostéopathe énergéticien, c'est encore différent, parce qu'on travaille pas sur le symptôme, hein, on débloque l'énergie de l'individu. Donc en fait c'est un intervenant qui va vous aider à débloquer une situation et qui va vous redonner de l'énergie. Cette énergie qui va vous permettre de régler vous votre problématique. Donc moi je le vois comme ça. Et au niveau du corporel, même si c'est quelqu'un qui va vous manipuler, qui va faire craquer, comme on dit, c'est pareil, c'est quelqu'un qui vous soigne. Donc en fait, c'est une interaction, je dirais, de la psychanalyse, de l'analyse qui est préventive, et du soignant, donc qui peut être médecin, mais qui peut être ostéopathe, et qui est soignant. Donc vous avez une interaction médicale et paramédicale, mais bon, médicale, je dirais, au sens global, et analytique. Donc c'est le top. Vous faites les deux. Et en même temps, vous avancez, vous, tranquille. Est-ce que vous avez des questions à poser? Non. Donc, avant de conclure et de passer la parole à Monsieur Elidjan, donc ce que je voulais vous dire, c'est que, bien évidemment, l'accueil du patient, il est médical. Hein. Il ne s'agit pas du tout de lui donner une interprétation psycho et puis de le renvoyer chez lui pour réfléchir. Hein. Moi, je suis là pour le soigner. Donc je le prends en charge, je fais le bilan de sa maladie, je travaille avec lui sur le traitement qui est le plus adapté, j'écoute aussi quand même ses desiderata, c'est-à-dire si c'est quelqu'un qui ne veut pas prendre de médicaments, parce qu'il n'aime pas ça, on va travailler, moi je travaille en mésothérapie beaucoup, les toutes petites piqûres, où on envoie les produits, donc je peux travailler comme ça, et petit à petit, donc on va avancer vers la guérison, hein. Et mais en même temps, si c'est une maladie qui devient invalidante, au niveau de la douleur, au niveau de la gêne ou répétitive ou grave, c'est là qu'il faut encore plus se poser de questions. Là, à ce moment-là, je vais essayer de travailler avec lui et de sentir à travers son discours, d'écouter et à travers son discours, de repérer l'élément qui est problématique qui est derrière. Et je vous disais, le plus souvent, c'est l'affectif, parce que le professionnel, les gens ont des galères, Mais ils vont la passer, cette période. Ils vont changer de boulot, ils vont être au chômage. C'est vrai que ça va être dur, mais ils vont arriver à le gérer. L'affectif, ça les suit, ça les mine beaucoup plus. C'est quelque chose de beaucoup plus douloureux, de toute façon, pour tout le monde. Et là, je pense qu'on est particulièrement démunis. Donc, et à partir de là, la prise en charge, elle est, pour moi, elle est multidisciplinaire. Donc, elle est médicale stricte. Ça peut passer, donc, rééquilibrer sa vie différemment. Donc, faire du vélo, faire du sport, ça peut être faire du yoga, pourquoi pas, de la natation, pour prendre en charge le corporel et puis se déstresser et puis vider un petit peu le trop-plein négatif que l'on a en soi selon la vie qu'on mène. Et après, ça peut être donc la psychothérapie pour ceux qui veulent, ça peut être aussi l'ostéopathe, ça peut être la sophrologie. Maintenant, il y a des ateliers aussi qui se développent d'art-thérapie. Sur quelqu'un à qui ça correspond, ben je le laisse tout à fait s'engager dans cette voie. De toute façon, ça, c'est les personnes qui savent et qui viendront avec des adresses et qui vous en parleront. Et sinon, ça bien évidemment, pour la personne qui désire, parce qu'elle est en souffrance et pour faire un travail donc en profondeur sur elle, ça passe par la psychanalyse. Mais bon, je dis ça, c'est à chacun de voir son parcours de chemin et le sentir.